Bien.
Je propose qu'on fasse déjà un rapide tour de table pour se présenter. On est rentré dans l'atelier assez rapidement et on ne sait pas se présenter. Donc moi, je suis Pascal Chenet, je suis professeur de sciences économiques et sociales et je suis enseignant associé à l'INRP. J'ai un demi-poste, hein, je travaille à mi-temps.
Enchanté.
Anne-Claire Dauphin, adjointe en lycée professionnel Cholet, Académie de Nantes.
Pierre-François Némad, collègue de Madame Dauphin, donc adjoint au lycée Renaudot, donc Cholet.
Michel Bois, je vous présente ce matin, mais responsable du service formation à l'INRP.
Bonjour, inspecteur général sciences élevées de la Terre et correspondant académique pour Nantes.
Eric Juteau, principal adjoint au collège Le Galinet à Blain, Loire-Atlantique.
Xavier Noël, enseignant-chercheur au CREN à Nantes.
Frédéric Cochibianchi, je suis donc enseignante de lettres dans un lycée et détachée pour la moitié de mon temps au PASI de l'Académie de Nice.
Christophe Hénaud, donc principal du collège Les Sicardières en Vendée, en Académie.
Christine Ladré, responsable de la MIVI à Nantes.
Pascal Roche, principal du collège de Trélazé dans la banlieue d'Angers.
Bien. Alors, je ne sais pas comment vous souhaitez que l'on procède. On peut, si vous voulez, faire un tour de table et s'exprimer sur ce qui nous est apparu comme des points forts ou probablement des points faibles de cette expérimentation. Alors, évidemment, ces documents, c'est un peu des raccourcis, hein, ce sont des extraits d'entretien. Mais bon, je pense que même si ça offre une vision partielle et peut-être partielle de l'expérimentation, tu crois qu'il fonctionne ?
Oui. Ah bon. Si tu l'as mis.
C'est doublé.
Cette fois, il fonctionne. C'est un peu.
On
ne peut pas le laisser sur la table. On est obligé de le faire circuler pour s'exprimer.
C'est oui, il faut que ce soit assez proche. Assez proche.
Mais en principe, c'est pris aussi.
Je trouve pas. Enfin, ça va pas faciliter les échanges.
Alors on arrête.
Donc voilà, donc je vous rappelle les objectifs, identifier des points forts, enfin bon, des points faibles, hein, les défaillances de cette expérimentation, et essayer de, à partir de ces points faibles, de dessiner finalement quels sont les points de passage dans cette expérimentation, les points de passage qui n'ont pas été empruntés, les seuils qui n'ont pas été franchis, pour dynamiser cette expérimentation. Encore que, quand on dit dynamiser cette expérimentation, je vais être provocateur, cette expérimentation, elle marche. Si on regarde les gens qui... si on regarde les professeurs qui ont ouvert leurs portes, hein, et les enseignants semblaient plutôt réfractaires la première année, et ils ont largement ouvert leurs portes la deuxième année. Donc en termes de dynamique, il y a quelque chose de... peut-être de paradoxal, c'est que... Enfin, c'est pas si paradoxal que ça, mais... ça marche en termes de dynamique. En tous les cas, les enseignants sont entrés dans le dispositif. Voilà. Je ne sais pas qui veut commencer.
Bon, c'est en se forçant, on peut essayer de trouver un petit point fort.
On va commencer par les points forts.
Le point positif, c'est... alors, je ne saurais pas juger de la réponse. Comment dire, du nombre de personnel comparé au nombre d'élèves, apparemment d'expérience dans ce domaine, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'ils ont des moyens supplémentaires.
Oui.
Donc, c'est quand même censé être un point positif. Ils ont des ressources à disposition pour pouvoir les utiliser avec leur autonomie. Même si, ensuite, un autre point fort, alors là, c'est plus en me forçant, disons que c'est une épée à double tranchant, je vais prendre, disons, le bon côté, c'est... la jeunesse de l'équipe, d'une certaine façon. Ça pourrait être l'occasion de dynamiser, mais... Si, en termes de relations.
Jeunesse ou d'expérience ?
Alors voilà, si c'est jeunesse et dynamisme, je suis preneur. Si c'est une expérience, ça passe en point négatif. Donc, mais au moins, peut-être une acceptation de la nouveauté plus facile que dans une équipe trop installée, admettons.
Et peut-être aussi, quand même, en contrepartie, une vision un peu plus... pas encore assez assoupli par la pratique de l'enseignement, est-ce qu'on peut y faire une vision peut-être pas encore assez libérée après la formation.
Ça, c'est justement dans les points négatifs.
si je peux aller sur les points positifs, il y a un point qui m'a semblé potentiellement positif, sur lequel je me suis étonné, c'est la force des IDD reconnues, qui semble traduire une attitude du travail en équipe, du décloisonnement disciplinaire, et qu'on n'a pas l'impression de retrouver à côté. Donc c'est une sorte de point fort potentiel qui n'a pas l'air un savoir-faire qui n'a pas été transféré à une autre situation.
Alors effectivement, je ne suis pas sûr que ça apparaisse dans les entretiens, mais c'est le chef d'établissement qui a impulsé cette idée de co-intervention. Elle le justifie par le fait que dans son établissement, il me semble que ça apparaît dans les entretiens, dans son établissement, dans cet établissement, les idées fonctionnaient bien. Ouais. Donc elle pensait que c'était transférable, effectivement.
Oui, c'est ça.
Donc là, il y a des conditions de transfert qui sont à interroger. Mais surtout, son idée, c'est que ça, elle l'avait dans son précédent collège, elle l'avait déjà un peu expérimenté, la co-intervention. C'est-à-dire que dans son précédent collège, qui n'était pas un collège en ZEP, elle s'était trouvée dans une situation où elle avait un professeur de mathématiques qui n'effectuait qu'une petite partie de son service dans l'établissement et qu'elle avait pu garder toute l'année. Et donc, ce professeur-là avait tourné dans toutes les classes de sixième, je crois. Et donc, elle avait trouvé que ça s'était bien passé. Et donc, elle l'a reproduit, là encore, dans son nouvel établissement. Donc, il y a deux ressources qu'elle a mobilisées pour choisir ce dispositif. Il y a ce qu'elle avait vécu dans son précédent collège, qui était bien passé selon elle, et l'idée que, effectivement, les IDD fonctionnaient bien dans l'établissement.
Mais ça, ça me semblait un peu sujet à caution dans la mesure où il y a un fort turnover des personnels. Mmh. Et donc, la culture IDD de l'établissement qu'elle semble décrire est forcément très, très établie.
Sur le turnover, et c'est un point fort, il est pris en compte. C'est-à-dire que si on regarde les objectifs, ils sont définis pour travailler sur une année scolaire. Donc le projet prend bien en compte que l'année scolaire suivante, 50% du personnel aura changé. Ça, c'est le versant positif, pour reprendre la terminologie. Bon, est-ce que, alors, si on était un peu plus modeste, est-ce que ces objectifs gradués, qui sont assez magnifiques, si on regarde... mais ils me font quand même penser, moi, à ce qu'on appelait les projets papier au début des projets d'établissement. Parce que c'est quand même beau. En juin 2006, comment intégrer les personnels subordonnés. En novembre 2007, favoriser la réussite. Donc ça se resserre, c'est de plus en plus pointu, si on veut. Et en janvier 2008, favoriser les pratiques de différenciation pédagogique. Bon,
On
est presque à l'aboutissement.
C'est deux ans, voire trois, pour atteindre ce qui devrait peut-être être l'objectif principal.
Et oui, mais ça prend en compte le turnover. Ça, c'est un point fort. La question est un point fort, si c'est une bonne question.
Mais apparemment, ce qui ne prend pas en compte du tout le turnover, c'est la communication, l'information concernant le projet, puisque visiblement, les professeurs engagés, les intervenants ne sont pas au courant ni de l'origine du projet, ni de la nature du projet, ni des objectifs du projet. Et ça, pour le coup, je n'ai pas réussi à percevoir. Enfin, intégrer les personnels surnuméraires, visiblement, c'est fait. Ils sont tous occupés. Est-ce que c'est une intégration?
Ils ne sont pas intégrés.
Voilà. Ils sont occupés, mais ils ne sont pas intégrés.
Il y a un manque de travail d'équipe, certainement, là-dedans, qui est flagrant. On a l'impression d'une juxtaposition de solitude. Chacun travaille dans sa discipline. L'ignorance totale, le manque de partage des objectifs qui n'ont certainement pas été conçus en commun. Et je passe parce qu'il y a beaucoup d'éléments. Il y en a un qui est également extrêmement frappant, qui est un problème de mode d'intégration dans les statuts. Le statut des assistants pédagogiques est complètement flou. Ce qui fait que par faute d'intégration, ça laisse complètement à la dérive, avec un mélange d'affect aussi qui est absolument pas professionnel. Ils n'ont pas été professionnalisés, ces jeunes. Et on voit très bien la dérive. Alors on les met dans le champ disciplinaire, qu'ils refusent, ils se rapprochent des élèves, connivence qui s'établit, ils ne sont plus dans une posture d'enseignant. Ils ne se mettent plus en posture d'aider véritablement, d'aider les élèves, d'aider des assistants pédagogiques. Donc là, c'est pas de l'intégration, c'est de l'émulsion, et c'est d'une émulsion qui se sépare. On a l'impression, au lieu d'avoir une intégration dans le temps, la part de l'affect amène une sorte de séparation de l'émulsion, où la phase assistant pédagogique se retrouve, entre guillemets, côté élève, à côté propre. En fait, c'est très curieux.
Oui, parce que vous parliez tout à l'heure de la réussite des IDD, mais c'est entre pairs.
C'est prof et prof.
Bien sûr.
Voilà. Professeur à professeur.
Et là, on a plutôt des populations qui se différencient progressivement et qui, déjà, est-ce qu'ils ont pris leur rôle de pédagogue, des assistants ? Est-ce qu'ils ont été intégrés en tant que pédagogue, même au moment du recrutement ? Et est-ce qu'on les a laissés dans ce rôle par le professeur ? Est-ce que le professeur les a intégrés comme ça ?
On ne leur a pas expliqué ce que c'était que posture d'enseignant. Enfin, on les a pas amenés, du moins, à construire une posture différente.
Et pourtant, quand le groupe classe se sépare en deux, quand l'enseignant partage le groupe en deux, c'est l'assistant pédagogique qui se retrouve avec les plus en difficulté.
Avec une connivence qui tient de l'affect, probablement, si on met un petit peu bout à bout les différentes choses. C'est une complicité, c'est pas une posture d'enseignant avec une différenciation des rôles. C'est un petit peu ambigu.
Ils ont été transformés en assistants d'éducation.
Oui.
Aide aux devoirs et surveillance. Et vas-y, et débarrasse-moi des difficiles.
Et comme tes copains avec les plus difficiles, eh bien, vas-y, prends les recharges quand ça va pas dans la classe. Puisque toi, tu réussis à t'en débrouiller, vas-y. Mais ça joue sur l'affect, ça joue pas sur une réflexion pédagogique.
Et la prise en charge n'est même pas menée jusqu'au bout, puisqu'en plus, les exclusions perdurent.
Point positif, l'âge de ces assistants d'éducation, qui sont pédagogiques, qui sont...
Jouer facile.
Justement, oui, qui sont, effectivement, en termes d'âge... proche des élèves, donc qui pourraient, si effectivement il y avait une professionnalisation de leur fonction, jouer un rôle différent de celui de l'enseignant et médiateur.
En fait, personne ne connaît son rôle dans cet établissement.
Oui.
Les enseignants ne les connaissent pas parce qu'ils n'ont pas de recul. Les assistants pédagogiques ne le connaissent pas non plus parce qu'on ne leur a pas expliqué à aucun moment. Et puis, de fait, la proximité d'âge, parce qu'il faut qu'ils arrivent à se positionner entre des élèves et les jeunes professeurs.
Le chef d'établissement connaît-il son rôle puisqu'il n'y a rien d'expliqué, voilà. Personne ne positionné.
Non, c'est ça, là il y a
pas d'organisation.
De distance, aucun moment où les gens peuvent prendre de la distance et réfléchir ensemble à ce que l'on veut et comment on le met en place.
Mais c'est ça. À ce que l'on veut et comment on le met en place. Parce que si on prend un des points, par exemple, l'autonomie, qui apparaît lors de la deuxième année, bon, on s'aperçoit que mettre quelqu'un de surnuméraire dans la classe, c'est considéré comme a priori pouvant aider l'autonomie des élèves. Quand on regarde ce que fait le surnuméraire, c'est pas l'autonomie, il remet sur des rails les élèves. C'est donc pas le cours au service des élèves, c'est bien l'assistant pédagogique au service du cours, du déroulement du cours.
Donc, voilà. Résumément, c'était mettre en confiance les élèves pour les amener progressivement à travailler seuls.
Alors, mais on n'est plus du tout dans l'autonomie, on est au contraire dans un rôle presque de gardien d'oie. Oui, c'est ça, on remet pratiquement les élèves sur des rails. Donc il n'y a pas de réflexion sur que doit-on faire pour donner plus d'autonomie aux élèves. Bon, on a vu sur les observations dans les rares en particulier, que souvent, personne surnuméraire, ça voulait dire segmenter les tâches des élèves. C'est-à-dire qu'au lieu de les amener à l'autonomie, ça amenait à resegmenter la tâche, à resegmenter l'accompagnement, et à rendre finalement, si on va jusqu'au bout du paradoxe, les élèves de moins en moins autonomes. On pouvait les aider à leur accorder à chacun plus de temps. Donc au départ, il n'y a pas de réflexion pédagogique sur quels sont les moyens pédagogiques, comment remettre en cause ces pratiques pédagogiques pour essayer de donner plus d'autonomie aux élèves. Et dans un deuxième temps, c'est à partir des idées que l'équipe peut avoir. Quelle place peut-on donner à ces moyens, quelles sont les solutions que l'on peut mettre en œuvre dans l'établissement avec les moyens dont nous disposons, c'est-à-dire non seulement les moyens de base, mais en plus les moyens surnuméraires. Ce n'est pas les moyens surnuméraires qui sont au centre, mais bien quelle plus-value à certains moments ça peut donner, mais à partir d'objectifs qui devraient être des objectifs pédagogiques.
Mais dans la définition des objectifs au départ, enfin, je ne sais pas si on a le total, là on a des objectifs qui sont suffisamment larges et qui sont, du fait qu'ils sont larges, ne sont pas opérationnels.
En fait, ce ne sont pas des objectifs opérationnels.
Coup, comment non, rendre les élèves autonomes ? Que peut-on faire ? C'est définir des actions aussi.
Et là, il n'y a pas de réflexion là-dessus.
Déjà, personne ne semble être au courant des objectifs. personne ne s'est donné la peine de savoir ses objectifs, comment on allait évaluer leur progression ou leur avancée. Et les nouveaux arrivés en rentrée 2007 sont encore moins au courant que les anciens de la promo 2006. Quoi.
Alors, bon, vous l'avez deviné, hein, mais ces objectifs, bon, on a réussi à les récupérer, ces objectifs qu'on a retrouvés donc, dans les documents qui sont transmis à la cellule innovation du rectorat, mais ce ne sont pas effectivement des objectifs qui ont été discutés, vous l'avez bien pressenti. Hein, ils n'ont pas été discutés. Et effectivement, chacun est rentré là-dedans avec ses propres idées, ses propres attentes. Et du coup, ben, on voit que ça produit des clashs, hein, parce que certains professeurs considèrent effectivement que ces assistants pédagogiques, ben, c'est des assistants d'éducation, c'est des surveillants. Ouais, donc, ils sont cantonnés dans des tâches de surveillance, de remise en activité des élèves, etc. Les assistants pédagogiques, bah, ils n'ont pas cette vision des choses, hein. Ils se destinent pour beaucoup à l'enseignement, donc ils aimeraient quand même un peu, comme ils disent, gratter le côté pédagogique. Mais à la fois, ils n'ont pas effectivement toujours la bonne posture dans la classe, hein, ce qui les met en porte-à-faux par rapport aux enseignants. Donc voilà, effectivement, ces objectifs n'ont pas été discutés, n'ont pas été partagés. Et ça pose les problèmes dans la mise en œuvre. Ensuite, les gens n'arrivent pas à se mettre d'accord, ça produit des clashs, on ne veut plus travailler ensemble, etc.
Et moi, ce que j'ai repéré comme objectif, alors j'ai toujours en tête une phrase qui est quand on n'a pas d'objectif ou quand on en a trop, c'est l'inconscient qui prend les rênes. Et l'inconscient, à mon avis, du chef d'établissement, là, ça a été de mettre ses assistants pédagogique au service des enseignants les plus en difficulté. Et c'est tout à fait noble, parce qu'effectivement, en fin de carrière, on voit des enseignants qui n'en peuvent plus. Et donc là, je veux dire que, voilà, c'en est un qui a été, je ne sais pas s'il est atteint, mais en tout cas, il est clairement visé, alors qu'il n'est pas une enseignante.
J'ai peut-être une lecture plus pessimiste des choses. Moi, ça me donne l'impression qu'il y avait une urgence dans ce collège, manifestement une pression à gérer les élèves, que ces assistants pédagogiques qui sont arrivés n'ont fait que rajouter à l'urgence, c'est-à-dire que c'est surajouter l'urgence de les placer, effectivement, de leur donner quelque chose à faire.
L'urgence, à mon avis, a été claire. Hein. En 3 ans, ils ont perdu 80 élèves.
Mais là, vous partagez le pessimisme du CPE, parce que c'est chez lui que la distance est maximale. Lui, il dit que c'est pire.
Oui, ou la principale qui dit qu'elle n'arrive pas à prendre le recul pour planifier les choses, parce qu'il y a toujours. Ils sont toujours pris dans l'urgence et ils ne peuvent pas mener à bien une réflexion.
Il n'y a pas d'indicateur identifié.
Oui, c'est révélateur. Elle dit, bon, quelque part, il faudrait bien que je donne ma vision de l'expérimentation. C'est bien, elle traduit bien ce défaut de leadership dans l'expérimentation.
Oui, en même temps, moi, il me semble que finalement, le passage obligé pour toute expérimentation, ça serait qu'en fait, tous les acteurs et chefs d'établissement, premier chef, aient connaissance bien en amont. Des moyens dont ils disposeront. Bon, les problèmes, ils les connaissent. Hein, quand ils arrivent, ils font l'état des lieux. Et pourquoi plus ensuite? Or, ça n'est jamais comme ça que ça se passe. Vous recevez vos dotations, vos personnels, etc., etc. Bon, les personnels arrivent aussi dans l'urgence et finalement, tout se met en place sur le terrain comme ça. Et après, on cherche à, alors sur le papier, donner du sens ou essayer de, alors que c'est l'inconscient effectivement de chacun qui a fini par dominer. Et ça, c'est un vrai problème.
Avec moi, il me semble une grosse inquiétude, c'est la fin, la disparition de ces surnuméraires là. Parce que là, aujourd'hui, ils répondent à un certain nombre de petites choses à court terme. Bon, la police, les aider à se mettre au travail, séparer ceux qui ont envie de travailler. Et le jour où ils vont disparaître, le problème est posé entièrement et avec une déresponsabilisation totale de l'équipe pédagogique. Je crois que le problème sera plus grave. Donc c'est une innovation, entre guillemets, qui risque de générer bien plus de problèmes que s'il n'avait pas existé.
Est-ce qu'ils y sont toujours, ces personnels surnuméraires aujourd'hui?
Oui, l'expérimentation se poursuit. Nous ne sommes pas retournés dans l'établissement. Alors, je ne sais pas, le chef d'établissement, son rôle est intéressant. Enfin, c'est elle qui impulse la chose. Mais après, effectivement, elle est absorbée par plein d'autres choses et finalement, elle s'en désintéresse. Elle s'en désintéresse. Alors, est-ce que c'était elle qui était la mieux placée pour impulser cette expérimentation? Je ne sais pas, c'est vraiment une expérimentation qui est au cœur de la classe. Donc, est-ce que c'était au chef d'établissement de suivre l'expérimentation? Est-ce qu'elle avait la légitimité pour conduire cette expérimentation qui est vraiment au cœur de la classe, hein, qui pouvait interroger les pratiques enseignantes? Je ne sais pas, c'est une question que je vous pose.
Ce qui est certain, c'est que son rôle de départ, c'était d'identifier avec les enseignants les besoins et d'ensuite écouter... si c'était bien une réponse à apporter aux besoins de l'établissement.
Je pense aussi que c'était ce qu'on évoquait ce matin, même si à l'origine c'est elle qui avait insufflé ou impulsé l'idée, au bout d'un an et demi, il est clair qu'elle ne pouvait pas être la seule à continuer à porter le projet. Ou alors elle est super ouverte.
Il faut des groupes de pilotage.
Il faut que chacun adhère, que le pilotage se démultiplie, mais une personne seule, avec ses seules idées qui ne sont visiblement pas partagées par tous, son projet, il pouvait durer que 2 mois, quoi. Si personne n'adhère à ce projet, il n'a aucune espérance de vie, quoi.
Alors, c'est vrai que, finalement, les personnes les plus impliquées dans ce projet, ça n'a pas été les professeurs de l'établissement, finalement les professeurs titulaires de l'établissement, ça n'a pas été en particulier les professeurs les plus anciennement implantés dans l'établissement. Ceux qui ont participé finalement le plus à la réflexion qui a pu avoir quand même lieu dans cette expérimentation, c'est les professeurs surnuméraires, donc qui ne sont pas franchement dans l'établissement, enfin qui sont à cheval sur plein de choses. Et c'est un petit peu aussi les assistants pédagogiques, parce que je ne sais pas si ça apparaît dans les entretiens, ils ont bénéficié de formation, ils ont bénéficié d'un accompagnement filé hein, par un centre qui s'occupe de l'éducation prioritaire. Et eux, ils ont effectivement réfléchi sur la différenciation pédagogique.
C'est ça.
Mais les professeurs de l'établissement n'ont pas été associés à cette réflexion. Donc là, je pense qu'il y a eu vraiment une occasion manquée de créer une culture commune autour de cette idée de différenciation pédagogique. Enfin, c'est assez curieux hein, de ne pas avoir rassemblé tout le monde pour réfléchir à ce projet.
Ouais, une formation sur site ou des choses comme ça.
Oui, mais oui, bien sûr.
Oui, le centre intervient sur site.
Il intervient sur site, mais pas auprès. Enfin, c'était réservé aux professeurs surnuméraires et aux assistants pédagogiques.
Mais qui a décidé que c'était réservé aux assistants pédagogiques, par
exemple? Je ne sais plus exactement. C'est probablement un problème d'emploi du temps.
Mais c'est ça, c'est qu'on revoit le problème de on ne peut pas libérer, voilà, effectivement, ouais, faire manquer des heures de cours aux élèves, on ne peut pas demander aux enseignants de venir effectivement plus trop non plus, etc. etc. Donc on se retrouve toujours.
Oui, mais enfin, j'imagine les responsables de la formation, ce sont des profils spécifiques? Les professeurs surnuméraires et ses assistants, donc ils sont peut-être pas allés au-delà. Eux, de leur point de vue d'un centre de formation, ils ont dit c'est un public cible. Point barre.
Le chef d'établissement peut aussi signaler les besoins de formation, public désigné, faire formation sur site, négocier le contenu, il y a une journée de solidarité, ça m'étonne. Donc, à caser quelque part, ça m'étonnerait qu'il n'y ait pas de conseil.
La journée de solidarité a été consacrée à la définition des contrats d'objectifs, justement. Il y a d'autres choses, d'autres projets qui se sont intercalés.
Et il y avait combien d'enseignants sur l'UR?
Oui, bien sûr.
Pardon. Là, on voit 31 enseignants, mais combien étaient en surplus?
12.
Pas 12 enseignants, hein. Il n'y avait que deux
assistants pédagogiques.
Oui, oui.
Ah, oui.
Non, il n'y avait que deux professeurs surnuméraires. Un en mathématiques et un en français. Et la professeure de français qui était Elle était en fait sur le réseau, donc elle intervenait dans les écoles, elle n'intervenait pas que dans le collège.
Enfin, tout confondu, ça fait 52 adultes pour 260
élèves. Ce qui est énorme. Bah, oui, ce qui est énorme. Et puis les classes, ça fait, les classes sont pas très... Elles sont même pas à 24, elles sont à 18-19 élèves par classe.
Mmh. Oui, mais c'est un rare. Collège rare.
Oui, mais ça montre bien que les moyens, s'ils ne sont pas réfléchis dans leur exploitation, s'ils ne sont pas assignés à des objectifs précis, ben ne servent à rien.
S'il n'y a pas de réflexion pédagogique de l'équipe au préalable. Il y a une réflexion à plusieurs disciplines. On voit aussi qu'avec un turnover comme celui-ci, si on veut créer une culture de la différenciation pédagogique, ça ne peut pas reposer que sur des formations disciplinaires posées. Une masse critique de personnes présentes qui soient concernées, de façon transversale.
Et puis on voit aussi une méconnaissance de ce que fait un enseignant d'une autre discipline, puisque la jeune professeure de lettres, qui est mignonne, mais qui dit « En lettres, on fait plusieurs activités au cours d'une heure. » Elle doit pas être la seule à proposer plusieurs activités au cours de son heure de cours.
C'est d'en faire plusieurs dans son cours de lettres. Oui.
Et c'est là qu'on sent justement le jeune professeur qui sort de l'IUFM,
qui a
des pratiques pas encore fluidifiées. Elle reste encore dans un cadre rigide, elle n'a pas eu le temps d'ouvrir les yeux sur le reste.
Et puis elle n'a pas encore de recul sur le fameux programme. Oui. On s'oblige à faire de la première ligne petit à petit jusqu'au... à l'oméga, puis elle est encore dans la transmission de connaissances.
Pour devenir un professeur autonome, elle a encore besoin d'un petit peu de temps.
Oui. Elle a un tuteur, aussi rendre ses élèves autonomes. Elle a un tuteur. Parce que quelle n'est pas de recul avec, disons, 6 mois de pratique. Bon, c'est pas plus important,
mais... Je reviens, moi, à la question de la formation, tout à l'heure, parce qu'elle me paraît centrale, ce thème-là. Cette co-intervention, elle ne fait pas partie, alors ce n'est pas les IUFM qui sont en cause là, hein, elle ne fait pas partie vraiment de ce qu'on travaille maintenant dans les IUFM, elle ne fait pas partie non plus du métier des gens qui sont des enseignants confirmés, parce qu'il y en a quand même quelques-uns. Le turnover ne touche pas absolument tout le monde, il doit bien y avoir un noyau dur d'enseignants qui reste comme un peu partout. Donc là, je dirais qu'en formant les assistants pédagogiques, d'une certaine façon, on fait le plus facile, parce que eux, bon, je dirais, ils sont neufs. Hein, donc, on va pouvoir travailler sur la diversification sans qu'il y ait trop de blocages. Je pense que ça aurait été plus compliqué, mais plus productif aussi, de le travailler avec les enseignants confirmés. Ça ne fait pas partie de leur bagage de départ, hein, ça. C'est un bouget du métier, parce que les années du travail appellent un bouget. Et donc, ça, c'est quelque chose qui se travaille un peu dans la durée, hein, parce que... Enfin, on a vu ça sur tous les dispositifs nouveaux, il faut des années, en réalité.
Oui, parce que la co-intervention dans les IDD, vous les avez observées, les IDD ?
Non.
Parce que, de ce qu'on a pu observer, la co-intervention, elle est relative. Hein, c'est-à-dire qu'effectivement, ou comme en TPE, hein, les enseignants sont à deux dans la salle, mais les interventions sont en réalité différenciées complètement. Hein. Chacun fait sa partie. Donc en fait, ça n'est pas une co-intervention.
On pourrait dire la même chose, j'ai fait partie d'un groupe d'études sur ce qu'on appelait les nouvelles prescriptions. C'est d'ailleurs dans le cadre de l'éducation politique. Alors là, c'était les TPE, c'était les PPCP, c'est-à-dire l'équivalent d'un lycée professionnel, qui corrobore tout à fait ce que vous dites. Et que la construction, il y a eu une publication d'ailleurs de l'INRP là-dessus, qui n'est pas inintéressante. Les gens travaillent par chevignement, c'est-à-dire qu'il faut qu'à chaque fois, quand même, ils aient un repère dans l'ancien pour construire de nouveau. C'est pas vrai qu'on se jette comme ça, c'est pas possible. En matière de métier, ça se passe jamais comme ça. Donc, il peut arriver qu'au bout de 2 ou 3 ans, en établissement successif, on arrive à quelque chose qui ressemble un peu à l'épure, qui ne correspond pas exactement. Mais là, on ne voit pas que ce travail ait été engagé. Chacun est sur sa représentation, la porte de lettres, le système d'éducation aussi d'ailleurs, l'apprenti CPE aussi.
Oui, l'apprenti CPE.
Chacun est sur son truc.
Oui, il ne faut pas rentrer dans une logique d'apprentissage collectif. Hein, on a un objet qui est la co-intervention. Ouais. Qu'est-ce qu'on en fait ? Quelle pratique dans la classe ? Il n'y a pas de réflexion engagée là-dessus.
Mais on se rend compte, enfin, dans les basiques, enfin, quand on tourne dans les établissements, que les expérimentations qui sont partis d'une équipe constituée en amont, qui a voulu travailler sur une situation, qui a des objectifs précis, qui a choisi son dispositif, fonctionne. En revanche, les expérimentations qui sont insufflées, ou parce que les chefs d'établissement suscitent, insufflent des projets, c'est très intéressant. Seulement, chez certains collègues, c'est perçu comme un ordre, il faut le faire pour complaire, et dans tous les cas, ça n'est pas partie d'eux. Donc, en fait, il n'y a pas de réflexion pédagogique. On cherche à s'inscrire dans quelque chose qu'on a cru cerner. Et pour le coup, ça donne des choses qui ne sont qui sur le papier existent, mais qui en réalité ne sont pas clairement définies pour tout le monde. Et donc, on ne peut pas avoir de résultats, les résultats escomptés, dès lors qu'on n'est pas clair sur ce qu'on cherche.
Sur le propos d'Ami Critique ce matin, je crois bien que la notion de traduction a été mise en avant, qui est une notion importante en sociologie, mais quel que soit l'écrit et quelle que soit sa qualité, le bulletin officiel est en général d'excellente qualité. Sans traduction, et les traductions peuvent être diverses, ça on le voit bien, c'est inopérant, ça n'existe pas, littéralement. Et il ne suffit pas, là aussi il faut du temps, il ne suffit pas qu'il y ait eu des conférences, une explication de texte, pour autant ça reste étranger.
Oui.
C'est par le biais de la mise en pratique, raisonner, discuter collectivement, que finalement les gens s'approprient les choses. Sur les TPE, les BPCP, c'était. Ils avaient tous eu des conférences, des journées et tout. Pour autant, ils n'en savaient rien. Bon, c'était une sorte de surdité. Ils avaient eu les textes, bien entendu. Ils savent tous lire, il n'y a pas de photo là-dessus. De là à la mise en œuvre, il y a un pas énorme.
Et ça, cette difficulté-là, je crois qu'elle a été rencontrée et relevée par l'évaluation de l'ADEP. Sur les enseignants surnuméraires en classe préparatoire, en CP. C'est exactement le même phénomène, c'est-à-dire sur les CP en éducation prioritaire, il y a 2 ou 3 ans, ou 4 ans, on a donc dédoublé ces CP. Et on s'est retrouvé, mais c'est exactement ça, c'est-à-dire que les compétences professionnelles n'étaient pas là, n'étaient pas formées. Et donc chacun s'en est sorti comme il a pu, en général, pas si bien que ça, ce qui fait que cette expérimentation a été arrêtée. Je crois que là, quand on commence à dire on rajoute des moyens avant de réfléchir, et sur l'éducation prioritaire, malheureusement, c'est souvent ça.
Est-ce que c'est encore une expérimentation? Parce que quand on fait que rajouter des moyens sans savoir à quoi ils vont servir, est-ce qu'on est encore dans l'expérimentation? Qu'est-ce qu'on expérimente? Qu'est-ce qu'on expérimente? On n'a pas vraiment d'hypothèse de départ.
Et parfois, on demande.
Effectivement, ce qu'on a bien vu sur les réseaux, sur l'éducation prioritaire, c'est que les moyens supplémentaires ont été utilisés, un, pour dédoubler et abaisser les effectifs, avec l'effet un peu pervers que j'évoquais tout à l'heure. Deuxième solution, effectivement, un peu de co-travail, mais du co-travail qui reposant pas toujours sur une réflexion pédagogique, sur l'individualisation. C'est un travail individuel, mais pas forcément individualisé. C'est-à-dire individuel quantitativement, mais pas individualisé qualitativement. C'est un petit peu ça le problème.
Et moi, je m'interroge, je voudrais savoir quels étaient les faits dans la nature de la demande institutionnelle pour la mise en place de ces assistants pédagogiques. Est-ce que ça s'est passé, hypothèse, donc note reçue au mois de mars, faites-moi remonter pour dans 3 semaines vos besoins en nombre d'assistants, etc. Non, ça a été vraiment
un cadeau. On a vu arriver les
cadeaux. Parce que quand on pense que pour un simple atelier théâtre, 2 heures, on va faire une procédure, mais qui est bien prévue dès l'origine, et on doit s'astreindre à ce cadre avec projet, moyens, équipe, évaluation finale, remédiation pour l'année suivante, et tous les ans on remet la même chose. Vous voyez, donc là on a un ensemble construit avec évaluation et la péréquation, les ajustements. Si ça n'a pas été fait comme ça, je comprends que c'est un pédagogique.
On a une réponse quasiment mécanique à une demande souvent exprimée, on veut bien, mais on n'a pas les moyens pour faire. Donc l'institution répond en disant, on vous donne des moyens. Seulement, il manque une étape qui est, d'accord, vous voulez des moyens, mais quel est votre projet? Voilà. C'est, je repense à autre chose, à peu près du même, enfin, qui me semble près du même ordre, c'est tout ce qui est des dotations OTIS, et en particulier un ordinateur par élève dans certains départements. On fournit d'abord une dotation en matériel, sans savoir si l'équipe va en profiter ou pas, et c'est comme ça qu'on retrouve des ordinateurs dans des placards. Il y a certaines régions, certains départements qui ont une autre stratégie en disant on peut vous donner des moyens informatiques, mais vous nous présentez un dossier, vous nous exposez votre demande, et là il y a aussi un engagement d'équipe.
Sauf que là, ça n'a pas forcément mis en pétard les enseignants de voir arriver du matériel. Par contre, des choses comme en ce moment l'embauche des médiateurs de la réussite, ça met en colère des équipes. Et moi, je fais vraiment un parallèle avec ce cas-là. Quand on travaille en zone d'éducation prioritaire, on est toujours avec des équipes hypersensibles. Et le fait de nous donner la possibilité d'embaucher ces médiateurs de la réussite en réponse au décrochage, c'est pareil, c'est faire les choses alors que normalement, ça doit venir du collège, de dire quels sont nos besoins pour nous aider à réduire le décrochage.
En plus, c'est un processus éducatif donc long qui doit venir de l'intérieur, d'une équipe, et qui ne peut pas être résolu par un ex machina, par une personnalité extérieure qui, miraculeusement, va résoudre toutes ces questions-là. C'est vécu aussi peut-être comme une ingérence dans un
territoire. Il faut gérer à l'intérieur, parce que c'est pas simple.
Il y a aussi les mêmes problèmes pour les intégrations de contrats aidés.
Les contrats aidés, mais c'était la même chose. Les médiateurs de la réussite sont des contrats aidés.
Il n'empêche que c'est quand même une excellente idée de travailler en co quelque chose.
Absolument.
Donc là, il y a une piste pédagogique qui est tout à fait intéressante et qui mériterait d'être travaillée, retravaillée, en formation, accompagnée. Enfin,
c'est une excellente chose.
C'est beaucoup
chose.
Mieux que d'avoir redoublé.
De l'extérieur, bon. C'est une excellente chose. Est-ce que c'était la réponse à apporter dans ce cas présent? C'est pas certain.
Moi, j'avais cherché des points positifs quand même pour. et je m'étais mis en tête de cela que avec tous les dysfonctionnements qui sont visibles, il y avait quand même le fait d'avoir cassé le huis clos de la classe. Et ça, c'est quand même quelque chose d'extrêmement profond dans la culture enseignante.
Même celle des élèves. Il y a une appropriation réciproque élève, professeur.
Et on a cassé le huis clos de la classe sans pour autant. Casser le regroupement par infinité de personnes.
Il y a des stratégies défensives.
Ça revient quand même.
Oui, ça revient. Mais quand même.
On n'inclut que ceux pour qui on éprouve une certaine sympathie.
Oui, sans entrer finalement dans des discussions sur les pratiques pédagogiques.
Voilà, sur le fond.
Et sans retoucher à la structure par division, apparemment. Ouais. On a réduit le nombre d'élèves par division. Sans penser qu'il y avait éventuellement d'autres solutions de regroupement, de redivision de groupes de niveau. Il y a aussi, ça c'est quelque chose qu'on remarque quand même, c'est un certain manque d'imagination dans la façon de penser des solutions. C'est peut-être là justement que tout ce qui est innovation pédagogique et mutualisation pourrait être à l'origine d'idées. Tiens, et si nous on essayait ça, est-ce que ça pourrait s'appliquer ou pas?
Parce que des expériences de ce type-là, on en a dans nos académies. Enfin, je sais que nous, en lycée professionnel, on est allé filmer des pratiques de co-animation. On les a utilisées à l'IUFM. Alors, elles sont sûrement perfectibles, mais on a des exemples. Ça s'est fait, des équipes qui l'ont fait. Donc, c'est ce que je disais, il y a des amorces d'avancer sur ces questions-là.
Excusez-moi, je repose la question, est-ce que c'est une expérimentation? Est-ce que ça n'est pas seulement l'utilisation simplement d'une opportunité, opportuniste, d'une possibilité qui n'a pas été choisie, mais simplement offerte, de façon chaotique? Je ne suis vraiment pas sûr qu'on puisse appeler ce qui est décrit là expérimentation. Par contre, ce que vous évoquez, oui, ressort probablement de l'expérimentation avec un résultat analysé et pourrait produire des idées, au moins, utilisables dans les cas comme celui-ci, de personnes qui se retrouvent face à une situation qu'ils ne savent pas gérer, qui vont aller chercher une sorte de creuset, de boîte à idées ou de kit d'idées, ce qui pourrait leur convenir.
Oui,
Oui, parce que les équipes étaient en recherche de choses.
Mais ça, c'est des choses qui seront posées, je pense, à la table ronde de demain. Les choses, elles existent. Oui. Elles existent dans la France.
On n'invente pas grand-chose.
C'est essentiel, mais tout le monde ne peut pas avoir le même degré d'imagination. On voit bien une équipe comme celle-là qui est faite certainement pour partie de personnes un peu routinières, anciennes, un peu lassées, et de jeunes qui n'ont pas encore l'expérience. On ne peut pas non plus attendre a priori d'une équipe avec cette composition-là, avec un fort turnover, qu'elle soit immédiatement créative, imaginative. On ne peut pas lui jeter la pierre, c'est certain. Et la création ne vient probablement pas d'équipe avec cette constitution-là. Donc effectivement, réussir à récupérer des idées simples venant d'équipes plus affûtées, mais qui pourraient donner des outils plus faciles à transposer, faciles à comprendre, pas des vinagas, des choses simples, quoi. Des idées, des creusets à idées.
Quelle était votre intervention dans cet établissement, à part le regarder et voir comment ça se passait?
Alors, ça fait partie de la démarche que l'INRP a engagé avec le PASI. Donc, on était dans l'établissement, c'était un groupe interdisciplinaire. Donc, il y avait des gens de l'INRP, mais il y avait aussi des chefs d'établissement. Il y avait des inspecteurs. Donc, on était plusieurs. Et c'est dans la perspective de... On était là dans une optique de recherche-action. On n'était pas là dans une optique d'évaluation. On était dans une optique de recherche-action, dans l'objectif de construire le Vademécum dont on a parlé ce matin.
Et vous avez fait un retour auprès de l'établissement ?
Pas encore, on doit le faire.
Le fait de poser ces questions aux personnes, mm-hmm. est-ce que ça a engendré des questionnements, justement, et des réflexions ?
Notre visite dans l'établissement a déclenché plein de choses, parce qu'il y a plein de problèmes qui ont surgi, justement, à l'occasion de notre visite. Et le chef d'établissement s'est rendu compte d'un certain nombre de dysfonctionnements à l'occasion de notre visite. Ce qui interroge la régulation de l'expérimentation dans cet établissement, parce qu'il y avait des dysfonctionnements quand même importants. Le fait de reléguer les élèves les plus difficiles à l'assistant pédagogique, le fait de s'organiser comme ça, de la main à la main pour savoir qui va travailler avec qui. Enfin, il y avait des dysfonctionnements importants qui n'ont pas été repérés.
Donc vous n'étiez pas venu évaluer, mais vous avez quand même...
On a enclenché.
L'observateur modifie.
Oui. Mais nous, on se rend compte quand on vient justement pour évaluer ou assister, être l'ami critique d'une équipe en milieu d'année, par exemple, sur une expérimentation qui a débuté en septembre, quand le HCE nous demande quelque chose, on va voir. Et on se rend compte qu'à la discussion, effectivement, avec l'équipe, et là, pour le coup, plus ou moins, le chef d'établissement ou son adjoint ont pris le temps de venir, que des dysfonctionnements apparaissent, c'est vrai, mais aussi que parfois des choses qui, en fait, sont communes à l'équipe, alors qu'ils n'avaient pas au départ les objectifs communs, parce qu'encore une fois, chacun a pris sa discipline et a fait ce qu'il pouvait dans le cadre qu'on lui avait fixé, sans réunion de concertation, etc., etc. Tout d'un coup, il y a des choses positives et qui sont communes qui ressortent. Et finalement, la présence et les questions qu'on pose font ressortir des problèmes, mais font aussi apparaître des pistes de convergence ou des aspects positifs aussi d'expérimentation que le chef d'établissement n'avait pas pu voir. Parce que on peut se demander effectivement quelle régulation, mais en même temps, comment réguler tout et partout quand on est chef d'établissement, je ne sais pas.
Oui, je crois que le regard externe est effectivement important et souvent les équipes recherchent ce regard externe.
Oui.
Alors vous en avez tiré quoi pour le Vademécum ?
Évaluation.
Nécessité d'évaluation.
Définir des objectifs.
Oui, ce qui apparaît à travers ce cas-là, c'est d'une part, on ne s'est pas posé les bonnes questions au départ. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas posé la question pourquoi évaluer ? Pourquoi évaluer ? Pourquoi faire de la co-intervention, pardon ? Pourquoi faire de la co-intervention ? C'est-à-dire qu'on n'a pas... On n'a pas problématisé, en fait, notre expérimentation. Et puis, on n'a pas du tout réfléchi au comment. Comment on fait de la co-intervention ? Quel est le rôle de chacun ? Quelle doit être la posture de chacun ? Etc. Donc, ça nous donne, mais là, on est en pleine phase d'élaboration, ça nous donne des idées de domaines sur lesquels il faut faire porter le regard. Ce qu'on essaie de qualifier comme des points de passage que les équipes doivent emprunter pour dynamiser l'expérimentation. Donc, il y a cette idée de problématisation qui nous paraît importante et de temps d'élaboration. Dans la phase initiale de l'expérimentation, et c'est ce qui était dit tout à l'heure, il y a beaucoup de choses qui jouent effectivement au départ de l'expérimentation. Et puis l'idée de régulation qui est importante. L'idée de régulation, la capacité à réajuster les problèmes, à détecter les problèmes qui apparaissent déjà, à détecter des problèmes, à les faire apparaître, et puis à réajuster les choses.
Mais là, il y avait absolument rien de prévu quand on passait d'un objectif à l'autre.
Non, ça, c'est des objectifs qui ont été définis par le chef d'établissement parce que c'était des papiers qu'il fallait rendre à la cellule académique, mais ce n'est pas des objectifs qui étaient partagés, qui ont été réfléchis collectivement.
Ce qui m'étonne un tout petit peu, quand même, c'est que j'ai l'impression que les outils de base sont dans la formation de tous les chefs d'établissement. Quand même, l'organisation d'un projet, le travail en équipe, la phase de diagnostic, définir des objectifs, définir des actions, avoir des points d'évaluation qui permettent de re-questionner, etc., des points de passage. Ça s'appelle aussi la démarche qualité. Quand vous décrivez ça, c'est quand vous cherchez des points critiques, vous êtes quasiment dans la démarche HACCP qu'on utilise dans une cuisine. Enfin bref, on est dans une démarche qu'on utilise tout le temps. Quand on regarde un professeur dans son cours, il dit « Tiens, je me suis planté aujourd'hui. Pourquoi ? Qu'est-ce que je pourrais faire ? Ça s'appelle de l'analyse de pratique. » Enfin bref, il y a quelque chose quand même que j'ai du mal, j'avoue, à comprendre dans le système. Parce qu'on a l'impression que on a quand même un besoin, et puis une formalisation, disons, une formalisation de cette conception de projet à différentes échelles, qui appartient de cultures communes, mais souvent sous forme de non-dit, et qu'on ne réussit pas à mettre en pratique de façon organisée. C'est pour ça, quand vous dites de dynamiser une expérimentation, je me demande si, à la limite, ce n'est pas déjà simplement organiser l'expérimentation. La dynamisation, il me semble que dans dynamiser, il y a quelque chose de plus. Il y a donner un peu, j'allais dire un peu de pêche, un poids. Mais dans un premier temps, il faudrait organiser. Puis après, on va mettre peut-être de l'énergie. Mais cette organisation... L'outil est commun, il est utilisable partout, si on ne réussit pas à le rendre clair, limpide, explicite dans les cultures aux différents niveaux.
Il faut du temps aussi, c'est-à-dire que de la même façon, d'abord la formation des personnes de direction avec la formalisation des projets, elle date de quoi ? 15 ans ? Il existe encore des gens qui n'ont pas eu du tout ce type de formation, donc il faut du temps.
Et ça n'existe pas chez les professeurs, non. Alors qu'en fait, c'est sous-jacent.
Et puis la démarche qualité, étant stagiaire deuxième année, oui. La démarche qualité ne fait pas partie des choses qui sont abordées.
Mais même alors, si elle ne se porte pas ce nom-là,
ça va arriver. Oui.
Ça fait partie quand même.
Effectivement, sans doute, c'est sous-jacente, mais elle n'est pas formalisée.
Moi, je participe.
Si, Académie de Nantes, plan formation, personnel de direction, ça y est.
Moi, je participe au titre du PASI depuis 2 ans, donc à une journée dans la formation des personnels d'encadrement, c'est-à-dire première année. Et clairement, les formateurs qui m'invitent à cette journée font venir des collègues à eux, et on se rend compte qu'en fait, bon, bien sûr qu'il y a effectivement initié cette démarche de qualité, puis après, on a notre... le pendant, je dirais ça, c'est-à-dire que peut-être l'expérience de chefs d'établissement qui ont été dans cette démarche qualité, parce qu'ils ont vécu finalement alors, des hostilités, des conflits, ou je ne sais pas trop quoi, finalement, ça devient alors comment présenter aux professeurs, à l'équipe, les projets pour qu'ils adhèrent, et non pas partir des besoins du diagnostic consensuel sur lequel on arrive forcément dans un établissement, quels sont les problèmes de l'établissement. À partir de ce diagnostic où tout le monde est d'accord, plusieurs pistes peuvent ressortir et puis le chef d'établissement décide que c'est cette telle expérimentation et on explique pourquoi celle-ci et puis bientôt telle autre. Mais cette expérimentation va répondre à un diagnostic qui s'est fait en collectivité et là il y aura adhésion. Et là, ce qu'on disait ce matin, ceux qu'on a laissés de côté, auxquels on n'a pas pensé, qui vont ressurgir. Mais si on est dans cette explication-là, et si effectivement l'année d'après on engage encore autre chose avec ceux qui se sont vus écartés au départ, ça va pouvoir fonctionner. Mais là, maintenant, on a l'impression qu'il s'agissait dans certains cas, et c'est des conseils qui sont donnés hein, chez nous, dans notre académie, aux jeunes chefs d'établissement qui débutent, finalement, faire en sorte de présenter les choses pour les imposer. Et à partir de ce moment-là, à un moment donné, ça va aller au clash. Soit avec effectivement les personnels enseignants, soit parce que les problèmes vont ressortir, parce qu'en fait, il n'y a pas eu de réflexion préalable.
Bon, je crois qu'on risque. Vas-y. Non, c'est si on rentre dans un débat sur quels sont les critères de recrutement, de formation des personnes de direction, les objectifs qui leur sont fixés, ça peut être très très long et ambigu.
Non, mais c'est pas ça du tout le propos.
D'autant plus que nous avons épuisé. Mais
on entend bien aussi ce que vous dites, mais on a aussi la commande de l'institution. Regardez la réforme de la classe de seconde, fiasco total. Moi, je suis en lycée professionnel. Je passerai les meilleurs moments sur la rénovation de la voie professionnelle. Donc, on apprend, je dirais, sur le tas aussi, à faire ce que vous évoquez. Voilà. Donc, on sait qu'on va aller au clash un jour ou l'autre, à contourner pour faire adhérer les gens, alors qu'au départ, ils sont
parce qu'il y a la commande, mais ça, c'est évident. La commande,
moi, j'ai appris à être aux ordres. Je suis fait pour ça. Non, mais c'est vrai.
Oui, en même temps.
Alors, j'obéis d'abord, je réfléchis.
Non, c'est la situation qui fait l'âme. C'est-à-dire que... Voilà. Moi, je suis en zone d'éducation prioritaire. Et en fait, je suis dans une situation où les projets d'innovation sont déposés à tire-larigot au rectorat de Nantes et je cours derrière, moi. Je n'impulse pas, je cours derrière pour essayer de faciliter. Je suis facilitateur, je mets de l'huile dans le système, j'essaye d'apporter des sous, de l'argent, des financements. Mais c'est parce que c'est un établissement qui a été en grande difficulté et qui a été obligé de trouver les moyens de s'en sortir. Donc, de travailler ensemble.
Bien. Je suis désolé, j'avais promis qu'on consacre un peu de temps à élaborer la synthèse.
Mais c'est difficile de faire la synthèse sans présenter l'expérimentation de mots et donner quelques pistes de réflexion qu'on a envisagées.
Est-ce qu'on arrive à répondre à
ça? Non.
Monsieur Bois, quelque chose à dire, il y a un peu
rien de capital. Non, mais. En gros, ce dont vous parlez, là, c'est quand on apprend au moins les rudiments de la communication au chef d'établissement. Là, il n'y a même pas ça, parce que manifestement, il n'y a rien de partagé. Donc, on est en deçà. Alors bon, évidemment, c'est pas l'optimum, mais...
Oui, mais je pense que c'est parce qu'elle était dans une urgence, là.
Problème un peu isolé aussi. Hein.
Voilà.
Et puis, je veux dire aussi très vite, et après... que je pense qu'il y a des questions d'organisation, c'est vrai. Notamment, bon, si on essaie de traduire en termes d'organisation cette idée d'ami critique, là, bon, l'extériorité en moins, ça rejoint toute une réflexion qu'on trouve dans tous les bouquins de management, dans tous les domaines, sur le rôle des cadres intermédiaires, sur l'intermédiation, sur, etc. Et c'est vrai que ces cadres intermédiaires, pour le moment, dans des établissements, on recherche. N'existe pas. Enfin, ils peuvent exister, mais temporairement et de façon non complètement fonctionnelle. En remontant encore d'un cran, et ça c'est en faisant par rapport à des souvenirs que j'ai de fonctionnement d'établissements à l'étranger, plutôt dans les pays du Nord, là, je crois qu'il y a aussi une question de culture du travail collectif qui n'est pas présente, qui pour le moment ne fait pas partie vraiment de la culture dans les établissements français, avec alors là pour le coup des rituels, un ordre du jour, des comptes rendus, des choses comme ça. Il y a des pays où si vous vous mêlez de faire une réunion avec trois personnes, bon, et si vous n'avez pas fait d'ordre du jour, si vous ne faites pas de compte rendu, vous êtes grillé, c'est simple, vous êtes un analphabète. Et non, je l'ai vécu, donc quand on est à deux ou trois, on se dit bon, on va faire des choses, ben non. Non, il faut absolument. C'est intégré. Je ne sais pas si c'est intégré depuis la maternelle, mais c'est intégré très tôt, manifestement, et par les élèves déjà. Et lorsqu'ils sont profs, ben c'est intégré. Hein. Et donc, ça donne quand même une certaine efficacité pour la conduite de projet. Il y a des choses qu'il n'y a pas besoin de rappeler, qui vont de soi. Voilà.
Bien, on peut clore nos discussions.
En termes de passage obligé,
qu'est-ce qui a été raté finalement?
définition des objectifs et leur partage, oui. La recherche de solutions pédagogiques adéquates, de solutions pédagogiques diversifiées, la mise en adéquation entre les besoins, enfin non pas les besoins, l'offre, les possibilités, et puis justement c'est ce que ces équipes recherchaient, ils ne demandaient rien de plus avec quelque chose à disposition, cette mise en adéquation. Des points d'évaluation.
Des points d'évaluation, des points de régulation.
Une communication, des outils de partage et de formation commune. De formation commune, il me semble qu'il y a deux choses. Il y a le point, les élèves, c'est le projet pédagogique, comment on le met en œuvre, qu'est-ce qu'on suit comme objectif, comment on le fait. Et la deuxième chose, c'est le travail de l'équipe aussi. C'est-à-dire une fois identifié quand même les dysfonctionnements, la répartition des rôles de chacun, etc., ça aurait peut-être été bon d'avoir en même temps, comme ce que vous l'avez fait, mais de l'intérieur, une observation de la façon dont fonctionne l'équipe. Peut-être pas par tout le monde, mais au moins dans l'établissement, il y a une observation. Sur l'intégration, un suivi quand même de l'intégration. Qu'est-ce qu'on assigne comme mission aux assistants pédagogiques? On s'aperçoit qu'il y a des problèmes d'intégration, des problèmes de posture, des problèmes de façon de procéder. Donc, se fixer quelque chose et rétroagir aussi là-dessus. Donc, travailler à la fois sur les pédagogiques et travailler aussi un peu sur les procédures. Sur les procédures, la structuration même de l'équipe.
Mais je crois qu'il y a une question, moi, que je soulèverais. En premier, c'est qui on aide? Est-ce qu'on aide les profs ou est-ce qu'on aide les élèves? Parce que si on part sur l'objectif d'autonomie ou d'exclusion de cours, qui était au départ, quand vous avez demandé d'établir les domaines, je suis partie domaine élève, puis après, je suis partie domaine enseignant. Et puis je me suis dit, voilà, c'est du domaine enseignant. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont aidé les enseignants en difficulté. Bon, et on ne va pas obtenir les mêmes choses. Il faut, j'ai envie de dire, peu importe l'objectif qu'on se fixe, mais
il faut qu'il soit clair.
C'est partie de la réflexion sur les objectifs.
Les objectifs assignés sont des objectifs élèves. Ça c'est clair. Mais dans un deuxième temps, c'est le comment on le fait. Voilà. C'est ce que j'appelle un peu interroger la procédure. C'est-à-dire comment peut-on travailler, alors aider les enseignants, c'est pas forcément les aider dans la classe, mais c'est les aider à se poser des questions, à imaginer des solutions, à travailler ensemble, mais en prenant pas que les enseignants, en prenant aussi les assistants pédagogiques, en prenant probablement aussi les CPE. C'est toute la tribu là qu'il faut soigner. Il n'y a pas eu d'approche systémique. Et donc, d'une façon ou d'une autre, il faudrait que cet établissement se dote aussi d'un outil d'organisation un petit peu de son système et d'observation de son système, sans en faire, comme vous le disiez, le point central. C'est-à-dire que le but du travail, c'est pas de se regarder le nombril et de voir s'il est de plus en plus beau, mais bien de regarder les élèves, tout en regardant comment fonctionne la machine, pour être sûr qu'elle est bien mise au service des élèves. Je crois qu'il faut regarder les deux, autrement on a...
C'est l'idée d'enquête collective, oui, sur ça. Les pratiques.
Et de remonter, etc., de remonter de vécu comme vous l'avez fait aussi. De retour de pratique.
Oui. Ce que dit Christine, quand même, sur les objectifs affichés et sur les objectifs masqués, est intéressant. Oui. Parce que les objectifs sont politiquement corrects.
Ah ben oui, qu'ils ont fait remonter une fiche, ils ont fait, c'est ça. C'est comme quand on parle de curriculum réel et de curriculum caché, on est sur ça. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est fait, ce n'est pas ce qui est dit.
C'est ça. Tout à fait.